au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu?
Parce qu'on est à quatre jours de Noël.
Ah, pas encore. Pas
ah
encore.
Non?
Non, attends.
Oui, j'ai hâte.
Ah oui. Vas-tu faire le Père Noël cette année?
Oh là là, non, ça fait bien des années que j'ai pas fait ça.
Ah ouais, ben moi j'ai pas la corpulence, mais je peux faire le squelette pour le 31, parce que le 31, il y a quand même le 31 octobre, hein, l'Halloween qui s'en vient.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, oui. J'ai commencé à avoir des décorations d'Halloween un peu partout, mais si tu vas dans des magasins, les décorations et les cadeaux de Noël sont déjà en vente, on pourra en reparler à un moment donné. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée d'automne dans l'est du pays, en fait partout au Canada. C'est peut-être plus couvert sur la côte ouest avec des risques d'averses. Dans les provinces de l'ouest, on est toujours dans le 12, 13, 10 degrés, même par endroit. Ça inclut la Colombie-Britannique jusqu'au Manitoba. Il y a des avis météo pour certaines régions rurales et en montagne notamment, parce que ça se pourrait qu'il y ait un mot qui commence en N.
Wouhou!
Ah, le mot en N pour la neige.
Ah, je pensais que c'était nougat.
Ouais. Ben oui, mais là, on n'est pas rendu là ici aussi, là, au Québec, en Ontario. On reste quand même dans nuageux, courtes éclaircies, soit plus ensoleillé dans les prochains jours. On est toujours dans les 16 à 18 degrés. Puis c'est à peu près la même chose là si on va du côté des provinces atlantiques, où on est dans les 8 à 15 degrés. C'est nuageux, là aussi, possibilité d'averse. Une émission très chargée aujourd'hui. On a beaucoup de monde à vous présenter. On va parler avec l'écrivain fantôme. Ben oui, hein, on parlait d'Halloween tantôt. Alors, un écrivain fantôme qui sort de l'ombre, Patrick Pelletier, qui nous parle de son métier, de son nouveau roman, son premier roman en tant que écrivain non fantôme, écrivain vivant. Alors, La profondeur du lac. On va parler d'intimidation à l'enfance, qui est le thème de l'installation multimédia de Michel Lemieux à la Place des Arts, qui part ensuite en tournée, ça, donc à voir. Et puis, on va aussi parler avec des concepteurs de la pièce qui s'appelle L'aventure invisible, qui commence aujourd'hui au Théâtre Prospero. C'est intéressant, ça. On parle d'identité et de perte d'identité. L'économie avec Michel Poitevin, on va parler des prix Nobel de la paix. Non, de l'économie, excuse-moi. Et on va parler aussi de livres avec Anne-Marie Aubin, des livres en rapport justement avec l'Halloween qui s'en vient. Et puis aujourd'hui, ben, en 1964, le prix Nobel de la paix, c'est pour ça que je me suis mêlé tantôt avec le prix Nobel de l'économie, mais le prix Nobel de la paix a été remis à Martin Luther King, qui devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et aussi...
Bonjour à vous,
venez avec nous.
On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons.
On aime le vieux bourriquet, mais il est parfois inquiet.
Merci d'avoir remarqué.
Maître Hibou fait de discours que l'on ne comprend pas toujours.
Eh bien, je me rappelle ma tante Mathilda du côté de mon oncle qui avait perdu sa hulotte et qui me disait...
Si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin.
Grand gourou fait des pâtisseries,
que petit gourou engloutit.
Devant la maison de Porcinet, on fait la danse du ballet.
Oh, mais quelle corvée!
Tigrou bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou.
C'est tigrement beau!
Et voici Winnie l'ourson.
Winnie l'ourson,
tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons.
Oui, je suis Winnie l'ourson,
Winnie,
les filles, les garçons,
l'ourson.
Soyez tous les bienvenus dans cette maison. C'est tout petit, pourtant chez moi Winnie, je vous invite tous aujourd'hui.
Je vous invite tous aujourd'hui.
Winnie l'ourson, ça c'est moi, c'est Winnie l'ourson.
C'est bon?
Ben écoute, c'est ma jeunesse. Alors c'était ça, je voulais juste souligner que c'est le A.A. Milne qui publie Winnie l'ourson, Winnie the Pooh, un livre pour enfants qui deviendra un classique de la littérature jeunesse et puis qui est devenu l'un des ours les plus célèbres du monde et qu'on a pu voir donc dans cette bande dessinée dont c'était le thème musical que je vous ai fait jouer. On s'en va en musique.
Tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Fini ce bordel, hésitation à terme, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle, c'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles, elle, elle pleuvait sur toi, moi, je te donne des ailes, tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système, que je vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne rappelle.
Tant pis pour elle, c'est le titre de cette chanson chantée par Charlotte Cardin.
Un petit tour des actualités maintenant. Selon Radio-Canada.ca, le cessez-le-feu historique entre Israël et le Hamas amené à la libération de tous les 20 otages vivants qui étaient encore détenus dans la bande de Gaza, marquant la fin de 2 ans de guerre dévastatrice. En contrepartie, Israël a relâché plus de 1900 prisonniers palestiniens. Des scènes de liesse ont été éclatées à Tel Aviv lors du retour des captifs, tandis que les familles des prisonniers libérés laissaient exploser leur joie en Cisjordanie et à Gaza. Sur le plan diplomatique, le président états-unien Donald Trump s'est rendu en Israël puis a co-présidé un sommet en Égypte avec plus de 20 dirigeants mondiaux pour discuter du plan de paix post-guerre proposé par les États-Unis. Si l'échange d'otages et de prisonniers fait naître un immense espoir, de grandes questions subsistent quant au désarmement du Hamas et à la future gouvernance de Gaza. Toutefois, ce cessez-le-feu devrait permettre un afflux d'aide d'urgence humanitaire dans le territoire. Toujours selon Radio-Canada, le gouvernement Legault s'apprête à revoir sa stratégie climatique. Un document interne révèle que le Québec veut allouer plus de fonds à l'adaptation des citoyens aux impacts des changements climatiques comme les inondations ou les glissements de terrain et moins à la réduction des gaz à effet de serre, les GES, qui en sont la cause. Cette réorientation passera par une modification du plan pour une économie verte 2030 et donc du fonds d'électrification et de changement climatique, l'ancien fonds vert. Actuellement, seulement 13 % du budget est dédié à l'adaptation. Ce changement survient alors que le gouvernement pourrait revoir à la baisse sa cible de réduction des GES actuellement fixée à 37,5 % d'ici 2030. De plus, on apprend que la gestion des sols contaminés sera simplifiée et que la procédure d'évaluation environnementale des projets sera accélérée de plusieurs mois. Petit tour maintenant du côté des paractualités. Communiqué du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard du 10 octobre, l'Île-du-Prince-Édouard lance un nouveau programme d'hémodialyse à domicile, une première dans la province pour ce type de traitement. Ce programme permet aux patients de recevoir l'hémodialyse qui filtre les déchets du sang dans le confort de leur foyer sans les déplacements fréquents à l'hôpital. Pour les insulaires comme Lindsay Ross, qui passait l'équivalent d'un emploi à temps partiel en clinique, ce changement est une révolution. Elle pourra désormais faire ses traitements la nuit pendant son sommeil. Après une évaluation du domicile et une formation de 10 semaines, les patients bénéficient d'un soutien 24 heures sur 24 de la part de l'équipe de soins, élargissant ainsi l'accès à ce traitement vital. Radio-Canada.ca du 14 octobre, au Palais de justice de Québec, un homme de 62 ans, Nelly Rioux, a plaidé coupable à une accusation de contact sexuel. Le résident de Trois-Pistoles a profité de la vulnérabilité d'une adolescente de 14 ans atteinte du trouble du spectre de l'autisme et d'une déficience intellectuelle. Les faits remontent à la fin de 2023 alors qu'il était en visite à Québec. Profitant de l'absence de la tutrice, Rioux a fait des attouchements sexuels à la victime et l'a embrassé de force. Confronté par la tutrice après la dénonciation de l'adolescente, l'homme a tenté de se justifier en rejetant la faute sur la victime. Arrêté par les policiers, Nelly Rioux a reconnu avoir développé une attirance envers la jeune fille. Il connaîtra sa sentence en janvier 2026. Dans le quotidien maintenant, 13 octobre 2025, au Québec, une majorité de citoyens est préoccupée par le manque d'implication du gouvernement envers les adolescents. Un récent sondage léger commandé par le regroupement des maisons des jeunes du Québec révèle que plus d'un Québécois sur deux juge que l'on ne fait pas assez pour les jeunes. Ce constat inquiétant intervient alors que la proportion d'adolescents affirmant avoir une bonne santé mentale a chuté de 47 à 37 entre 2016 et 2023. Le directeur général du regroupement souligne que les maisons de jeunes manquent de 140 millions de dollars pour fonctionner de manière optimale. Il rappelle que sans le financement adéquat, les intervenants perdent un temps précieux à chercher des subventions au lieu de soutenir des jeunes qui en auraient besoin, qui souffrent donc d'intimidation ou qui ont des enjeux de santé mentale. Dans le Devoir du 11 octobre, c'est un contenu publicitaire, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'APTS, lance une campagne de sensibilisation choc pour dénoncer la dégradation des soins aux aînés au Québec. Selon Robert Comeau, président de l'APTS, le sous-financement du réseau public et la privatisation croissante mènent à un système à deux vitesses. Les aînés moins fortunés se retrouvent face à des listes d'attente insoutenables et des déracinements ou encore à des CHSLD ou à la dignité compromise. L'organisation syndicale déplore également le manque de services d'aide à domicile. Intitulée « Regardez nos vieux jours en face », la campagne invite les personnes âgées, leurs proches et les intervenants à témoigner de cette réalité. L'APTS souhaite ainsi forcer un débat public et des réinvestissements massifs pour des soins équitables de santé de qualité.
Je pense à toi même si c'est pas rationnel. Je suis pas doué pour les problèmes relationnels, moi. Tout ce que je sais faire, c'est faire de la musique sur une guitare un peu usée en espérant que tu vas revenir. Mais baby, j'ai croisé ta mère, elle m'a dit que t'allais bien. T'as trouvé la paix, aussi un autre copain. Je crois que ça va de fou dans ma vie un peu moins. Mais t'en fais pas pour moi, mais t'en fais pas pour moi. De toute façon, je suis même pas sûr que t'écoutes. Moi qui pensais que ça me rendrait plus cool. Jouer de la guitare, c'est vraiment très surcoté. Tu penses que t'es une star, mais en réalité, je pense à toi même si c'est pas rationnel. Je suis pas doué pour les problèmes relationnels, moi. Tout ce que je sais faire, c'est faire de la musique sur une guitare un peu usée en espérant que tu vas revenir. Mais baby, j'ai croisé ton père, il m'a dit que t'allais bien. T'as trouvé la paix. Ça va de fou dans ma vie un peu moins. Mais t'en fais pas pour moi, mais t'en fais pas pour moi. On était assis quelque part en train de parler de la veille. Le vent soufflait dans les arbres, mon épaule collée sur sa tête. Puis elle m'a regardé dans les yeux, m'a dit que c'était dur à faire, mais qu'elle aimerait qu'on se sépare. Puis elle a disparu dans les airs. J'suis pas le meilleur dans les problèmes de cœur, mais j'ai ma guitare et ça suffit pour me faire sentir un peu mieux qu'hier. J'ai beau recroiser ta mère, ça changerait pas le cours des choses. Donc tant pis pour les roses. J'pense à toi même si c'est pas rationnel. J'suis pas doué pour les problèmes relationnels, moi. Tout ce que j'sais faire, c'est faire de la musique sur une guitare un peu usée, en espérant que tu vas revenir. Mais baby, j'ai croisé ton frère, il m'a dit que t'allais bien. T'as trouvé la paix, aussi un autre copain. J'crois que ça va de fou dans ma vie un peu moins. Mais t'en fais pas pour moi, mais t'en fais pas pour moi. J'pense à toi même si c'est pas rationnel. J'suis pas doué pour les problèmes relationnels.
Fred, c'est sa chanson « Rationnel ».
Il est un auteur à la trajectoire fascinante. Après avoir prêté sa plume à d'autres pendant une décennie, participant au succès de plus de 100 000 exemplaires par an à travers la francophonie, il sort de l'ombre. Pour la première fois avec son propre roman, j'accueille Patrick Pelletier, qui publie « La profondeur du lac » aux éditions de l'Apothéose. Bienvenue à l'émission, Patrick.
Bonjour. Merci de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. Vous avez passé 10 ans dans ce qu'on appelle l'ombre. Le titre de votre roman s'appelle « La profondeur du lac », qui fait écho au thème que vous explorez, l'ombre et la lumière, l'apparence et la vérité. Pourquoi cette histoire-là, ce roman-là, était l'urgence qui vous a fait sortir de l'anonymat?
Ben, en fait, je recherchais pas la lumière du tout, mais surtout, j'avais besoin de cesser d'éteindre la lampe qui brillait en moi. Et ce livre-là m'a permis une liberté que je n'avais pas forcément en tant qu'écrivain fantôme, parce que j'avais besoin en fait d'écrire pour ceux qui lisent avec la peau, pas juste avec les yeux. En d'autres termes, creuser les sujets plutôt que d'écrire des intrigues à répétition, par exemple.
D'accord. Le métier d'écrivain fantôme, je trouve ça intéressant. Puis je vais dire qu'il y a un autre mot qu'on utilise, mais on n'utilise pas le mot « N » en onde, alors on ne le dira pas, le « N » littéraire. Là. Alors, ça implique de porter le secret. Le fait d'écrire sous votre propre nom est-il une libération par rapport à toutes ces années de confidentialité et de silence?
Une libération, non, parce que le critère principal pour être écrivain fantôme, c'est calmer son égo. On n'est pas là, encore une fois, pour briller soi-même. Et puis c'est un métier, l'écriture fantôme, qui m'a énormément apporté. Je ne serais pas l'écrivain que je suis aujourd'hui sans ces années de collaboration avec de grands auteurs. Donc je dois énormément, en fait, à ce métier-là. C'est plus une maturité qui arrive à point nommé. Et il m'a fallu vraiment toutes ces années avant d'assumer d'écrire sous mon propre nom.
Qu'est-ce que vous dites que ça vous a apporté beaucoup? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme écrivain maintenant d'avoir travaillé avec ces autres auteurs dans l'ombre, comme on dit?
Ben, je pense que pour être écrivain, il faut avoir une certaine dose de créativité. Donc on l'a ou on l'a pas. Il faut l'avoir, encore une fois. Par contre, la technique, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, que je maîtrisais pas du tout. Donc j'ai appris auprès des meilleurs et ça m'a grandement servi parce que, la technique, il faut la maîtriser suffisamment pour pouvoir l'oublier après et laisser toute sa part à la créativité.
Avant d'entrer dans le sujet du roman, je suis quand même curieux. Est-ce qu'on peut dire que pour qui vous avez écrit, vous êtes lié à contrat à vie pour ne pas le révéler?
Oui, je suis soumis à la confidentialité. À vie au niveau des noms des auteurs et j'ai 10 ans, je crois, dans mon contrat par rapport à l'agence qui m'a embauché.
Ouais.
Je peux vous parler de mon roman, bien entendu.
Mais pas d'avoir des auteurs dont vous avez été l'auteur fantôme. Ben, justement, l'écrivain fantôme.
Non. Et puis c'est ça qui est fou parce qu'au 19e siècle, c'était quelque chose d'officiel. Tout le monde savait qu'Auguste Maquet était l'écrivain fantôme pour Alexandre Dumas et que c'est lui qui a écrit le premier G des Trois Mousquetaires, par exemple. Ah. On n'en faisait pas quelque chose d'opaque, mais régulièrement, au cours des siècles, il y a des scandales qui éclatent, on reparle de ce sujet-là, on le redécouvre quelque part, et puis il retourne un petit peu dans l'ombre. C'est comme ça.
Moi, vous savez, j'ai accompagné des gens qui n'étaient pas des auteurs à écrire leur biographie, et puis c'est très officiel, j'étais pas caché pour le faire. Mais bon, j'ai lu votre roman ce week-end, j'ai trouvé ça vraiment intriguant, passionnant même. On appelle ça en anglais, disons, un page-turner. J'avais hâte d'arriver à savoir où est-ce que c'était pour terminer tout ça. Alors, le protagoniste dans La profondeur du lac est un pilote automobile endeuillé. On découvre un homme brisé par la perte de son ami, de son enfant et dont la carrière prend fin à la suite d'un grave accident. Je ne vais pas en donner trop de détails pour ne pas divulgâcher, mais j'étais étonné en lisant votre biographie puis en lisant le communiqué de presse de voir que vous avez choisi un personnage issu de l'univers de la vitesse, de l'adrénaline, pour raconter une histoire de deuil et de résilience. Puis je trouve tellement que c'est un milieu qui n'a pas l'air d'être le vôtre, surtout. À moins que je me trompe, là.
Je voulais absolument un sportif de haut niveau et j'ai choisi ce milieu-là parce qu'il est justement à l'opposé de ce qu'il montre parfois. Et je voulais vraiment mettre en lumière et filmer le revers de la médaille de ce sportif de haut niveau qui est avant tout un homme avec ses émotions, ses drames, comme vous disiez. Et puis pour montrer sa fragilité, parce que un des sujets principaux, moi, qui m'anime, c'est que je pense que la vulnérabilité, notamment, peut être une force. Et qu'il faut essayer, en tout cas, œuvrer pour se montrer tel qu'on est, plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases et pour plaire à tout le monde, quoi, ce qui est impossible, en fait, dans la vie de tous les jours.
Et vous déconstruisez, finalement, une espèce d'image préconçue qu'on a des athlètes ou des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont fortes, qu'il n'y a rien qui les atteigne, alors que lui, on voit, là, ça l'atteint au plus profond de lui-même, c'est même très touchant par bout.
Oui, puis ce sont des gens, je pense, profondément humains, comme nous tous, même s'ils sont dans l'excellence de leur art ou de leur sport. Mais j'ai fait ce constat, on est nombreux à attendre un geste qui rallume par moment, je pense. Ça n'est peut-être que mon avis, mais c'est justement cette fillette vient toucher le cœur d'un homme éteint et l'amène à partager sa fragilité, en fait.
Oui, et je ne parlerai pas de la personne qui fait la narration de ce roman, parce que moi, ça m'a pris un petit bout de temps à découvrir qui écrivait. En fait, on s'entend que c'est vous, là, mais la personne qui était la narratrice ou le narrateur, je trouvais ça intéressant, je l'ai découvert à la fin. Et ça c'était bien. Vous m'avez eu.
je suis bien content de ça, parce que les premiers retours de lecture, certains m'en veulent en me disant « mais non, c'est pas possible que ça finisse comme ça ». Mais c'est quelque chose qui m'est venu de... J'ai été lauréat de deux concours de nouvelles il y a 10-11 ans de ça. Mm-hmm. Et puis le principe d'une nouvelle, c'est que la fin doit être surprenante. Et je voulais absolument qu'il y ait cette couleur-là dans ce roman. Puis c'est aussi pour ça que par moment, j'ai couru le risque de m'adresser directement au lecteur.
Oui.
Au niveau du narrateur. Pour l'instant, je suis assez content des retours que je reçois, oui.
Bon, en tout cas, pour moi, c'est réussi, ça. J'aimerais dire aussi que le narrateur, là, je le mets au singulier, pas au singulier, au masculin, mm-hmm. Mais ça peut être au féminin, là, je fais juste utiliser le terme plus générique. Donc, la personne narratrice explique que le lac est un lieu de méditation, un moyen de plonger dans une réflexion abyssale et accepter les drames de la vie. Est-ce que le lac est en fait la métaphore de cette profondeur de l'âme que vous cherchez à explorer?
Oui, parce que je suis un fervent combattant des apparences. Et je trouve qu'en 2025, tout a tendance à devenir apparence. Mm-hmm. Il y a beaucoup de vernis, beaucoup de surface, d'où le titre « La profondeur du lac ». Et, donc c'est un appel à être soi-même, à oser le défi d'être vrai et d'accepter parfois de ne pas plaire à tout le monde. Donc c'est un peu la trame de fond de ce livre, effectivement, oui.
Alors, on va de drame en drame dans ce livre. Je ne vais pas révéler, là, parce que je pense que c'est mieux que les gens le lisent, mais quand même, on parle que ce livre, vous l'avez dédié à vos filles. C'est quoi le rôle de la famille? Qu'est-ce que ça joue, cette quête d'une nouvelle identité là, pour le narrateur?
Bien, vous voyez, par exemple, ma fille, moi, qui est à temps plein avec moi depuis qu'elle est toute petite, bien, c'est elle qui m'a fait prendre conscience que l'ombre, lorsqu'elle devient une habitude, vous colle parfois à la peau. Et puis, je dirais, c'est en partie grâce à elle que je me suis poussé au niveau du derrière pour sortir de l'ombre, arrêter l'écriture fantôme, parce que je trouve ça complexe, les secrets de famille. Mm-hmm. Et ma propre fille, quand je vous disais tout à l'heure que je ne pouvais pas révéler les noms des auteurs pour qui j'ai écrit, j'ai trouvé ça vraiment difficile pendant quasiment 10 ans. Que ma fille me voit écrire nuit et jour quasiment, puis de ne pas pouvoir lui révéler pour qui j'écrivais. Donc cet aspect familial pour moi a toujours été très important. Puis c'est aussi l'histoire de ce sportif de haut niveau dans le livre. Sans ses proches, est-ce qu'il aurait pu accéder à la première marche des podiums? Puis c'est aussi grâce au soutien des siens. Ben, qui ne cherche plus à la fin la pole position, mais plutôt un virage sincère.
Ah là là, alors vous me révélez quelque chose à la lecture maintenant du roman que j'ai fait ce week-end. Il y a quand même une partie de vous là-dedans, finalement.
Ne croyez jamais les auteurs qui vous disent qu'il n'y a jamais d'eux dans leur livre, que tout est fictif. Ça n'existe pas. On peut fabriquer un personnage avec plein de gens autour de nous, même des gens qu'on fait uniquement croiser du regard. C'est aussi pour ça que moi j'écris, je suis un peu atypique à ce niveau-là, mais j'écris dans des lieux publics, dans des cafés, dans des restaurants, parce que ben, vous ne le savez pas, mais vous pouvez tous et toutes être dans un de mes prochains romans. Donc, il n'y a jamais rien de totalement fictif, je pense, dans ce qu'on écrit.
Donc, il faut se méfier de vous, là.
Oui, grandement.
Bon, je sais que vous avez dit que vous avez des retours, que jusqu'à maintenant, là, moi, je vous en ai fait un parce que je viens de lire votre roman, mais quelles ont été les réactions les plus touchantes que vous avez reçues jusqu'à maintenant ou les plus surprenantes par rapport à votre roman?
Ben, déjà qu'on me haïsse pour la fin.
Pas moi, je trouvais ça vraiment surprenant, mais pas moi, je vous haïs pas du tout.
C'est un pari risqué, parce que je pense profondément qu'un livre ne commence vraiment que lorsqu'on a fini la dernière page, et que l'histoire continue, et puis c'est ça qu'on cherche, hein, à entrer dans le cœur des gens, poser des questions ouvertes. Voilà, puis le fait que j'ai voulu démonter, j'ai voulu montrer le côté anti-héros de ce sportif de haut niveau, j'ai pas mal de retours à ce niveau-là. Les gens sont très surpris parce qu'en fait, la course automobile n'est pas le sujet, ça n'est que l'intrigue. Mais d'avoir choisi ce sport-là, qui est, on va se le dire, hein, qui est assez macho, même en 2025, ben, ça a l'air d'être un pari réussi, en tout cas de ce que je lis. Puis quelque chose que je savais un petit peu déjà avec mes années d'écriture fantôme, c'est pour ça que j'étais content de reprendre mon propre style. Ouais. C'est le fait qu'on me dise que j'ai un style un peu à part. Un style inusité, pour reprendre un terme qui s'emploie au Québec.
Oui, voilà. Tout à fait. Rapidement, est-ce que maintenant que vous avez trouvé votre propre voix, est-ce qu'il y a un deuxième roman qui se prépare?
Oui, moi, oui, je suis en train d'en terminer un, quasiment, qui va être dans le prolongement. Ça va parler à nouveau... Enfin, beaucoup d'apparence, en tout cas. Mm-hmm. Je vais revenir de manière romanesque, bien sûr, mais sur l'écriture fantôme, qui est quelque chose qui m'a accompagné dans ces 10 dernières années. Donc, ça va venir alimenter un petit peu les sujets de ce prochain roman. Et j'ai bien hâte de le terminer.
Bien, Patrick Pelletier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que La profondeur du lac est disponible aux éditions de l'Apothéose et c'est en librairie depuis maintenant, depuis aujourd'hui. Merci.
Entendu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Alors, nous, après la pause, on va parler d'économie et on va aussi parler avec Michel Lemieux de son installation interactive Vulnérable. Tout de suite, après notre petite pause de 2 minutes, je vous rappelle, c'est un jour d'automne. C'est un peu frisquet par endroit, mais quand même, c'est pas désagréable. Profitons-en.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Ma musique sauvera pas des vies à part la mienne peut-être, mais selon les probabilités, ça risque d'être un peu tête. Si je me fie aux analystes, j'aurais plus de chances de m'éteindre sur le champ que de faire 2 fois la liste. Chaque fois qu'on bat le karma, crois-moi, c'est de toute beauté. Je m'en fous d'être sous-coté tant qu'on met des sous de côté. Parce que statistiquement parlant, ma carrière devait finir à 34 ans. Encore un tour de magie, encore un tour de France. Encore au goût du jour, ça doit être mon jour de chance. Encore un tour de force, fait tourner la roue de fortune. Chaque matin, je poursuis mes rêves, snooze button. Encore un dernier verre, la fête est jamais finie. Get rich or die, trying, stay in 50-50. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Sauvera pas des vies peut-être à part la tienne. Et si c'est tout ce que j'accomplis, ça peut valoir la peine. Je suis pas à plaindre, j'ai déjà gagné mon ciel. L'exception à la règle, pourtant j'ai rien d'exceptionnel. This hometown hero retourne à ground zero, sachant que mes enfants seront confos quand ils grandiront. Pourtant, statistiquement parlant, j'aurais dû faire le deux tiers de mes parents. Encore un tour de magie, encore un tour de table. On est encore en business, ça doit être un jour ouvrable. Encore un coup de dé, encore un coup du destin. J'en suis 60% sûr, 40% certain. Encore un dernier verre, un peu d'eau dans mon vin. Ça m'a permis d'enfin pouvoir le voir à moitié plein. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. On est encore en business, ça doit être un jour ouvrable. Encore un coup de dé, encore un coup du destin. J'en suis 60% sûr, 40% certain. Encore un dernier verre, un peu d'eau dans mon vin. Ça m'a permis d'enfin pouvoir le voir à moitié plein. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses.
C'était l'art et Ariane Moffat pour la chanson Par hasard.
Bon, alors on le sait, hein, Donald Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix, mais il y a trois économistes hier qui ont reçu le prix Nobel en économie. Et pour en discuter, on reçoit Michel Poitvin, professeur de sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour, M. Chabot, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, trois économistes, dont un Canadien, en fait, hein, qui ont reçu le prix Nobel de la paix, de l'économie, pardon.
Effectivement, qui sont-ils? On a Joël Mokyr, qui est né aux Pays-Bas, qui est maintenant professeur à l'Université Northwestern, en banlieue nord de Chicago, là, sur un magnifique campus sur le lac Michigan. Philippe Aguillon, qui est français, puis lui est professeur au Collège de France et à la London School of Economics à Londres. Mm-hmm. Et puis enfin, Peter Howitt, notre Canadien, il est professeur à l'Université Brown. Pardon, mais il a fait une bonne partie de sa carrière à l'Université Western à London, en Ontario. Et le gros de ses recherches qui ont mené au prix Nobel ont été faits en sol canadien, on pourrait dire, à l'Université Western.
Alors, comment on répartit ce prix-là? Parce que c'est un prix, mais il y a trois récipiendaires. Est-ce que c'est un tiers, ou comment ça fonctionne?
Je pense que le comité Nobel, ça varie d'une année à l'autre, puis d'un prix à l'autre. Dans ce cas-ci, 50% du prix va au professeur Mokyr, alors que les deux autres se partagent 25%, le 50% restant en portion égale, 25-25 chacun.
OK.
Donc, c'est pas égal. Donc, j'imagine, on souligne un peu les contributions relatives en modulant le prix selon l'importance de chacun, mais ouais. C'est clair que les trois ont eu un impact significatif là, dans leur domaine de recherche.
Mais justement, allons-y, là, justement, dans ce domaine de recherche, ils reçoivent un prix pour quelle recherche exactement?
Je dirais le terme unificateur là, pour les trois chercheurs, c'est la croissance économique.
OK.
Puis croissance économique, c'est très large, et puis on peut en parler un peu. Ils ont mis l'emphase sur l'innovation. Mais ça, c'était pas nécessairement, sans jeu de mots, une nouvelle idée là, que l'innovation mène à la croissance. Mais essayons de mettre un peu en perspective. Là. Si on regarde l'histoire de l'humanité, depuis à peu près 200 ans, on a une forte croissance économique. Le bien-être des populations s'est amélioré, là, l'espérance de vie, même la pauvreté là, dans les 30 ou 40 dernières années, la pauvreté extrême a diminué de façon incroyable dans le monde. C'est toujours un enjeu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais ça, c'est une très courte période. Là. Si on regarde peut-être les 4 ou 5 000 ans avant, il n'y a pas eu beaucoup de croissance, même s'il y a eu certaines innovations. On peut penser à la roue, des techniques de construction ou d'autres, mais il n'y a pas eu de croissance comme on a en ce moment. Puis nos économistes ont réfléchi à ça, puis ont dit, OK, qu'est-ce qui nourrit la croissance? Quel est le rôle joué par l'innovation? Puis comment on peut mettre l'innovation de l'avant? Puis Joël Mokyr, le premier qui a eu 50% du prix, Lui, c'est un historien de l'économie. Donc, il fait de l'histoire économique. Il s'est penché notamment sur la révolution industrielle qui a eu lieu au milieu du 19e siècle, là, surtout en Angleterre.
Donc, on parle à peu près de 200 ans, là, c'est ça?
Exact. Okay. Le 200 ans tout à l'heure, là, c'est ça. Je le fixais à peu près autour de la révolution industrielle.
OK, c'est bon.
Puis lui a regardé, bon, on a tous entendu des histoires du moteur à vapeur, l'énergie à vapeur, etc., qui a comme un peu lancé. Mais il y avait d'autres innovations avant, puis il dit, comment ça se fait que là, ça, comme la sauce a pris, ou si vous voulez, le mélange a pris. Puis il s'est rendu compte que la croissance, ça dépend de l'innovation, mais aussi, donc ça qui sont des facteurs économiques, mais aussi de facteurs politiques, des institutions politiques. Et puis, donc lui, il appelait ça une culture de la croissance. Alors, c'est quoi une culture de la croissance? Bien, il dit, la science, ça va nourrir la technologie, mais en même temps, les nouvelles technologies vont alimenter la science, on va vouloir en savoir plus. Et donc, ça prend, pour qu'on ait de la croissance économique, c'est pas juste l'innovation, mais ça prend des institutions, par exemple l'éducation, les universités, mais aussi des institutions politiques qui vont valoriser la science. Puis là, il donnait comme exemple, il disait, on regarde où ça a tout commencé, c'est en Angleterre. Bien, peut-être 200 ans avant la révolution industrielle, il y a eu la création de la Société royale à Londres, où là, on regroupait des scientifiques qui partageaient leurs recherches puis qui réfléchissaient et tout. Puis ça, c'est important, ça a valorisé l'importance des sciences dans la société, puis aussi comprendre les innovations. Des fois, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui invente quelque chose, mais il ne sait pas trop pourquoi ça marche. Il y a juste... Alors que les scientifiques, eux, ils vont essayer de comprendre pourquoi ça marche. Ça fait progresser le savoir.
On disait dans le temps des patenteux, puis après ça, bien, les scientifiques étaient là pour expliquer comment le patenteux avait réussi à faire son affaire.
Exactement. Et puis, en même temps, en Angleterre, il y avait des institutions politiques qui ont valorisé les innovations. Puis si parfois, il y avait des réticences au niveau politique vis-à-vis des savants ou des innovations, bien, il faut changer de pays. En Europe, il y a un paquet de pays. Vous allez en France, en Italie, en Hollande, dans d'autres pays. Donc, il y a une espèce de concurrence entre les pays, je pense, qui a joué un peu un rôle, une diversité d'institutions. Puis les gens, les savants, bien, allaient où ils étaient le mieux accueillis. Et puis Mocky refait le parallèle avec la Chine, où les savants, à l'époque, là, où les savants, les innovations étaient souvent muselées parce qu'elles étaient vues comme des menaces au pouvoir établi. Puis ça, et lui, il expliquait, c'est une des raisons pourquoi la révolution industrielle a débuté en Angleterre ou en Europe, mais la Chine a stagné beaucoup plus longtemps. Donc, ça, c'est le travail, je pense, c'est un travail important. Ça nous aide à comprendre un peu plus le processus ou pourquoi expliquer la croissance. Alors que les deux autres, nos deux autres, Peter Howitt là, et puis Philippe Aguillon, qui ont travaillé ensemble, notamment, ils ont plusieurs papiers ensemble, ils ont regardé le processus même de la croissance. Et puis, ils ont pas ressuscité, mais ils ont analysé un peu plus en détail une idée qui avait été approchée par Schumpeter au milieu du 20e siècle. Là. Ça avait été publié en 1954 à titre posthume, en fait, sur ce qu'il appelle la destruction créatrice. Et puis, ce qu'il voulait dire par là, c'est que dans toute innovation, il y a de la destruction. Veut pas, une innovation, c'est une nouvelle façon de faire, ou bien ce sont de nouveaux produits. Mais puis ça écarte les anciennes façons de faire ou les vieux produits qui font moins, en guillemets, la job, là, qui répondent moins à nos besoins que les nouveaux produits. Mais lorsqu'on les écarte, ceux-là, bien, il y a des travailleurs, il y a des entreprises qui vont disparaître. Puis ça, c'est la destruction, mais en même temps, elle est comme créatrice parce que ce que ça apporte du renouveau. Puis ça, c'est bon pour l'économie. Alors, eux, ils ont comme vraiment analysé, Schumpeter avait décrit ça dans des termes un peu informel, mais Aguillon et puis Howitt ont vraiment développé des modèles puis étudié en détail ce qu'il y avait. Et puis, il y avait une chose intéressante, il y avait quand même un souci significatif pour le bien-être des travailleurs qui étaient affectés par l'émergence des innovations. C'est-à-dire que les gens qui sont les entrepreneurs, les travailleurs qui sont un peu écartés, bien, eux, ils disaient, bien, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. On ne peut pas les laisser comme ça. Il ne faut pas trop les protéger parce que sinon, il n'y aura plus d'innovation. Mais en même temps, il faut laisser les innovations, mais il faut aider ces gens-là à se replacer puis à se recaser au niveau économique.
Est-ce qu'on peut parler de maintenant, parce qu'il y a des choses qui vont changer avec ce qu'on... le mot qui était sur toutes les lèvres, l'IA, l'intelligence artificielle?
Bien, c'est ça. Ça, c'en est une grosse innovation qui s'en vient, qui a été motivée par la connaissance, beaucoup de travail dans les universités. Il y a deux visions. Il y a des gens qui disent que ça va bouleverser nos économies. Il y en a d'autres qui disent que peut-être ça va prendre beaucoup de temps. Il y en a même qui voient un peu la destruction de notre monde. Là, les gens plus à l'extrême. Puis on n'a pas de boule de cristal pour savoir où on se situe. Mais c'est certainement une innovation qui est importante. Et puis ce que ces économistes-là nous diraient, bien, il faut laisser le processus peut-être l'encadrer un peu, le processus d'innovation, de destruction créatrice, mais mettre en place des bonnes politiques pour appuyer tout le monde là-dedans pour que personne ne soit laissé derrière.
Il nous reste 2 minutes. On a le temps de parler de la décroissance pour des causes environnementales.
Oui. Quand je parle de croissance, souvent, là, ça me fait penser justement, il y a des gens qui disent, bon, ben, on consomme trop, puis il faut favoriser la décroissance, mais... Je suis pas sûr que c'est le bon mot. On comprend un peu ce qu'il veut dire, mais quand on regarde pour un économiste ce que ça veut dire croissance, ça veut dire éducation, ça veut dire innovation, science et tout, je suis pas sûr qu'on va arrêter de s'éduquer. Je suis pas sûr qu'on va arrêter d'apprendre, de savoir. Alors, il faut faire attention quand on parle de décroissance. Moi, je pense que la croissance est bonne. Il faut l'encadrer, puis même, c'est pas nécessairement incompatible d'avoir de la croissance économique et puis avoir un environnement qui est propre, mais il faut l'encadrer, il faut faire moins de choses polluantes et puis encourager plus, par exemple, les technologies vertes, les produits verts, d'autres façons de faire. Mais je pense que la croissance, on va toujours en avoir besoin, ne serait-ce que pour l'innovation, par exemple, dans le secteur médical. Là, on ne peut pas arrêter d'innover dans ce secteur-là.
Puis j'allais dire justement que la croissance qui va avec l'environnement, c'est de l'innovation aussi. Alors,
Exactement. Si on regarde maintenant, on a beaucoup plus de façons de produire de l'énergie verte qu'on avait il y a 50 ans. Puis ils sont devenus beaucoup plus concurrentiels vis-à-vis par rapport au carbone ou au pétrole, ces nouvelles technologies vertes. On les applique de plus en plus.
Mais c'est toujours intéressant, Michel Poitevin, d'entendre vos réflexions et vos commentaires sur les grandes nouvelles de l'économie. On aura la chance de se parler bientôt. Merci beaucoup encore.
Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
L'intimidation en général, mais aussi et surtout l'intimidation à l'enfance, c'est un fléau et les répercussions sont désastreuses. Ce sujet a interpellé l'artiste pluridisciplinaire québécois Michel Lemieux, reconnu pour ses créations qui allient la scène, le multimédia et l'innovation technologique. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de son tout dernier projet, l'installation interactive Vulnérable, qui porte justement sur ce problème. Vulnérable, donc, qui sera présenté sur l'esplanade de la Place des Arts à Montréal, puis qui part en tournée dans les écoles au Québec. Bonjour, Michel Lemieux.
Bonjour.
Alors, c'est vraiment une œuvre qui est décrite comme une installation interactive inspirée par votre propre enfance marquée par l'intimidation. Qu'est-ce qui a été le déclencheur là, pour transformer ce souvenir personnel, qu'on peut dire douloureux parfois, en une œuvre d'art accessible au grand public?
Oui, en fait, je pense que la phrase clé qui a vraiment inspiré tout ça, c'est quelle est la portée de nos gestes? De nos gestes et aussi de nos paroles. Parce que l'intimidation peut se faire par de la violence, mais ça peut se faire aussi beaucoup, beaucoup par de la parole. Et comment nos paroles et nos gestes peuvent transformer les gens pour le meilleur ou pour le pire? Alors la question, c'est est-ce qu'on peut contrer l'intimidation par la bienveillance? Est-ce qu'on peut guérir les blessures de l'intimidation par la bienveillance? Moi, je l'ai vécu, comme je pense beaucoup de jeunes, encore aujourd'hui, malheureusement, j'ai vécu tout mon primaire et une partie de mon secondaire de l'intimidation, parce qu'évidemment, j'étais différent. J'étais pas comme les autres petits gars. J'étais pas très sportif. J'aimais beaucoup lire. Je faisais de la musique. J'avais déjà l'âme d'un artiste. Et pour ça, on me criait des noms. On me traitait. J'étais, bon, probablement déjà LGBT à l'époque. Donc, on me criait toutes sortes de noms. Et il a fallu qu'au milieu de l'adolescence, je rencontre, en fait, d'autres marginaux comme moi qui m'ont permis de me rendre compte que je suis pas le seul. Puis aussi, quand plusieurs marginaux se mettent ensemble, c'est plus difficile pour les intimidateurs de sévir. Donc, la force du groupe, en fait. Puis j'ai rencontré des gens comme René Richard Cyr, comme Suzanne Champagne, Sylvie Legault. On faisait du théâtre et on s'habillait flyé. Et puis alors on s'est comme reconnus. Et moi, ça m'a permis de me sortir de ce cycle d'être l'intimidé, de courir vite, vite. J'étais rendu très bon pour courir, hein, parce qu'on courait après. Mais je m'en suis sorti. Malheureusement, il y a des jeunes aujourd'hui, et surtout avec la cyber-intimidation, on l'a vu dans une série magnifique qui s'appelle Adolescence, ça va jusqu'à la violence, ça va même jusqu'au suicide.
Ouais. On parle d'Adolescence, là, qui est une série qui était présentée par Netflix, là, qui est présentée par Netflix, qui a vraiment bouleversé beaucoup de choses dans notre monde, hein, effectivement.
Oui, complètement. C'était quand même une approche assez frontale, assez documentaire. Tandis que l'installation interactive vulnérable passe par la poésie et passe par le ludique. Parce qu'un intimidateur, en quelque part, il trouve un certain plaisir à intimider. Par exemple, si on prend un certain président des États-Unis actuel qui intimide tout le monde, tous les... Il intimide autant les dirigeants que les habitants de tous les pays du monde en ce moment. Lui, il a du fun à faire ça. Alors, dans l'installation vulnérable, on se retrouve devant un personnage qui est différent à chaque fois. On a une espèce de système qui nous permet de créer des personnages plus grands, plus minces, plus petit, plus costaud, homme, femme, entre les deux, transgenre. Donc, à chaque fois, on se retrouve devant un personnage avec une grande diversité corporelle. Et nos gestes rapides, en fait, le système informatique reconnaît nos mains, reconnaît les gestes de nos mains. Alors, si on fait des gestes très rapides, ça va détruire le personnage, le faire comme le décomposer. Un petit peu comme différemment, mais en s'inspirant un peu du peintre Francis Bacon qui faisait des personnages complètement déformés. Alors, avec nos gestes rapides, on déforme les personnages jusqu'à presque les faire disparaître. Et quand on ralentit nos gestes, ça guérit le personnage. Le personnage redevient lui-même, mais avec quelque chose de plus, avec une certaine lumière. Et au moment de disparaître, le personnage a en lui un jeune enfant, presque un bébé, qui apparaît en lui. Parce que si je vous intimide aujourd'hui, vous êtes un adulte, mais j'intimide l'enfant en vous. On garde toujours disons l'aspect le plus vulnérable en chacun de nous, c'est l'enfant. On se fait intimider, c'est l'enfant de 4 ans, l'enfant de 5 ans qui est touché et qui est encore en nous. Alors, c'est un cycle d'à peu près 5 minutes. Alors, c'est sur la Place des Arts.
Oui.
Je suis projeté sur un grand mur de la Maison Symphonique, donc en plein cœur du quartier des spectacles. C'est gratuit, évidemment. Oui. On peut y aller dès la tombée de la nuit. Il interagit, on se met dans un spot de lumière et on interagit avec les personnages qui sont projetés géants. Et donc, on fait...
Je veux revenir à ce que oui. vous disiez tout à l'heure avec les mouvements, parce que c'est intéressant. Le mouvement rapide, donc, va briser, le mouvement lent répare. Je trouve ça intéressant de cette analogie, ou plutôt, je ne sais pas si on peut dire une analogie, mais au du moins, ce clin d'œil, hein, quand on prend la peine... on découvre que peut-être que même derrière cette personne qui intimidait, il y a un enfant qui peut-être était blessé aussi.
Complètement. Alors, quand on joue en quelque part l'intimidateur, on devient nous-mêmes l'intimidateur et on trouve ça beau ce qu'on fait. Là. C'est intéressant s'il y a de la couleur. C'est comme waouh! Jusqu'au moment où on se dit « Ouais, mais je suis en train de détruire quelqu'un. » Alors, c'est un petit peu les codes des jeux vidéo aussi.
Oui,
les codes, beaucoup de jeux vidéo, on tue du monde, puis là, on gagne des points. Fait que c'est le fun, tuer du monde, le sang gicle, etc. Nous, dans Vulnérable, on a évité d'avoir quelque chose de trop frontal, d'avoir vraiment du sang qui giclait. Je pense qu'on en voit assez dans les films, les séries et les jeux vidéo du sang giclé. On est plus métaphorique, mais on a un certain plaisir à devenir l'intimidateur. Mais par la suite, quand on ralentit, parce qu'il y a des messages qui nous ont écrits, qui nous guident dans l'expérience, et puis dès qu'on nous dit « calme-toi », ralentis tes mouvements, on a aussi une autre forme de plaisir à justement reformer la personne qu'on vient de rendre complètement abstraite. Et alors, il y a différentes, à chaque fois, c'est un personnage différent et à chaque fois, c'est une transformation différente et c'est hautement technologique. Là, c'est fait avec des programmes extrêmement sophistiqués. Donc les personnages... s'éclatent en toutes sortes de bulles, en toutes sortes de particules, ils reviennent. Alors, il y a quelque chose de vraiment intéressant de devenir à la fois l'intimidateur et l'intimidé.
Ça nous donne peut-être, est-ce que je me trompe en disant que ça nous amène à expérimenter ou à découvrir l'empathie si on ne l'a pas déjà ou de découvrir qu'on l'a. J'ai l'impression qu'on est en train d'aider les gens à redécouvrir ou à découvrir ce terme qui est parfois galvaudé, mais qui est quand même important, l'empathie.
Ben, je pense que c'est ce qui va sauver l'humanité. C'est ce qui va sauver le reste du vivant sur la planète. Je pense que si on est l'empathie existe depuis toujours, elle existe chez les animaux, chez certaines espèces animales. Puis bon, c'est sûr que Vulnérable, il n'y a pas de prétention à changer le monde. Il y a juste, je pense que les artistes, hein, on capte un petit peu l'air du temps, puis on essaie de non pas répondre à des questions, plus en poser des questions. Quelle est la portée?
À faire réfléchir aussi, oui.
Oui, à réfléchir un peu. Bon, écoute, ça reste quand même une œuvre qui est dehors, etc. Alors, c'est pas quelque chose qui est sérieux, mais c'est sur un sujet quand même qui est sérieux. Encore là, c'est un petit peu prendre les stratégies des jeux vidéo, donc quelque chose de ludique, quelque chose qui est intéressant à faire, qui est technologique, mais de le mettre au service d'une réflexion qui est à la base, je pense, de notre avenir. L'empathie, si tu es empathie, tu peux pas tomber en guerre et tu peux pas faire ce que certains dirigeants de ce monde font en ce moment, c'est-à-dire de mettre l'argent et la cupidité avant justement l'empathie et la vie, simplement la vie, être empathique à la vie des autres.
J'avoue que je trouve cette démarche intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle s'inscrit, sans peut-être qu'il y a un mouvement là, précis, mais je me disais, je suis allé au théâtre, j'ai vu les premières pièces de chacun des grands théâtres cette année à Montréal et tout le monde est un peu dans cette optique-là là, de pointer ce qui se passe présentement puis d'amener une réflexion justement vers l'empathie. Je pense à le tableau d'une exécution qui est incroyablement bon au théâtre du Rideau Vert. Et j'ai l'impression qu'on a cette espèce de mouvement-là. Je sais que vous ne vous consultez pas en tartiste, mais j'ai l'impression que votre sensibilité se rejoint là.
Ah ben complètement. Moi j'ai vu Homme au TNM.
Ah, même chose.
De Kim Thuy. Ouais. La même chose. Je pense que on dit en ce moment c'est le chaos dans le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Hein?
Ouais.
Beaucoup de bruit. En fait, ça depuis des millénaires, c'est un peu le chaos dans le monde. En fait, on dit que c'est moins de chaos maintenant, mais qu'on a l'impression. Il y a moins de guerre maintenant qu'il y en avait avant. Mais comme tout ça est très médiatisé, on est au courant de tout, de minute en minute. Alors, on est plus au courant de ce qui va mal. Mais ça nous met dans une espèce de pensée chaotique et aussi de pensée défaitiste, où on se dit, ben alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? L'écologie, ça s'en va n'importe où, les dérèglements climatiques, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va tout nous manger. Alors, il y a une espèce de découragement, puis je pense que l'empathie est une espèce de contrepoison, si on veut, un remède contre le pessimisme.
Cette espèce d'ambiance qu'il y a dans notre monde. Michel Lemieux, on va devoir s'arrêter ici, mais je vais rappeler que l'installation interactive vulnérable est, donc, va avoir lieu à la Place des Arts, sur le mur donc extérieur là, ce qu'on appelle la Maison Symphonique. Jusqu'au 29 mars, c'est gratuit. Merci beaucoup encore une fois. Puis ça va faire le tour du Québec dans des écoles. Merci beaucoup encore, Michel Lemieux, d'avoir été avec nous.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On est awesome, on est assorti, on est custom. Tu me fascines, t'es ma fashionista placide, t'es ma force fragile. Clap sur le 2004, pour ce qui nous a rendu le cœur par balle. Ce soir, on fait nos propres cascades.
Je te parlerai d'amour un peu à tous les jours. Je te ferai la cour, je veux pas que tu t'en ailles.
Je veux pas que tu t'en ailles, une chanson de William Cloutier et de Claude Bégin.
Si vous êtes dans la région de Montréal, juste pour vous dire que le pont Hippolyte Lafontaine est fermé en direction sud. Il y a un camion avec une pelle mécanique qui est passée, mais qui passait pas finalement. Donc, ça a créé des problèmes. Transport Québec est en train de faire enquête et devrait nous dire quand ce tronçon va être rouvert. Mais bon, si vous nous écoutez en direct, c'est peut-être le temps de, si vous êtes en auto, de contourner tout ça. Alors, ça nous amène à la chronique livre. Alors, aujourd'hui, on va parler de trois livres sur le thème de l'Halloween. Et je reçois donc Anne-Marie Aubin. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, on commence avec les créatures de l'école.
Oui, en fait, j'ai trouvé des livres pour 3 ans à 9 ans, donc l'enfance, qui peuvent aborder l'Halloween et les peurs et les fantômes et tout ça, sans que ce soit trop traumatisant, trop épeurant.
C'est parfait pour moi, ça.
Ben oui, ça existe. C'est difficile quand même d'aborder ça sans tomber dans les clichés. Mm-hmm. Alors, Émilie Rivard, qui a écrit maintes publications pour le 17 mois à 17 ans. Oui, c'est ça qu'elle dit. Ben, elle a créé cette histoire, Les créatures de l'école, illustrée par Yannick Raymond. Yannick Raymond est connu pour avoir fait quelques livres jeunesse, mais surtout aussi pour avoir fait l'œuvre d'art qui est l'apport du 1% à la Nouvelle Maison de Radio-Canada. Alors, donc un artiste en art visuel. Et c'est paru à la courte échelle dans la collection Noire. C'est paru il y a quelques temps, là, ça fait pas longtemps, dans la collection qui s'appelle Horreur. C'est un roman de 138 pages avec illustrations pour 9 ans à peu près. Eh bien, effectivement, la collection Noire veut faire des romans qui donnent un petit peu le frisson aux jeunes et toujours illustrés d'une manière sombre, seulement en noir et blanc, jamais de couleur dans cette collection-là. Alors, elle aborde l'école avec un problème, je dirais, d'insectes écœurants, dégueulasse, plus que le sang puis les monstres et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une jeune fille qui s'appelle Joséphine, dans cette école, trouve par terre une clé qui appartient à l'école, que quelqu'un a perdue, et elle va essayer toutes les serrures de l'école, toutes les portes ouvrent, même le cagibi du concierge. Les seules portes qui ne fonctionnent pas, c'est les portes pour sortir à l'extérieur de l'école. Alors, elle raconte ça à son amie, qu'elle a trouvé ça, puis pour elle, ça y est, c'est une mine d'or, elle va pouvoir fouiller partout. Et son frère lui dit, surtout, tu vas pouvoir ouvrir la petite porte condamnée à côté de la sortie de secours où il y a une rumeur que là, il y aurait eu des créatures monstrueuses, d'où le titre, Les créatures de l'école, il y a quelques années, que depuis cette pièce-là, elle est condamnée. Alors, il n'en fallait pas plus pour qu'elle ait envie d'y aller, mais comme elle n'a pas la clé pour entrer dans l'école, elle va attendre le soir de la visite des parents. À ce moment-là, l'école est ouverte à tous et elle va se faufiler au sous-sol pour aller voir cette fameuse pièce. À la noirceur, elle cherche l'interrupteur, elle se blesse, elle saigne et puis là, bon ben, elle va prendre du papier pour s'essuyer les mains. Puis là, elle va apercevoir dans le robinet des espèces de limaces sans sus qui vont sortir de là et qui veulent s'en prendre à elle, qui veulent sucer son sang finalement. Alors, elle va se dépêcher de tout fermer ça. Elle rentre chez elle, elle va raconter son aventure. Et là, elle va finalement vivre un certain nombre de mésaventures. Elle va passer pour une folle qui hallucine. Puis voyons donc, il n'y a pas de, il n'y a rien dans le lavabo. Quand les autres y vont, effectivement, tous les insectes rentrent dans le trou. C'est jamais le bon moment. Mais il y aura d'autres enfants qui vont être victimes de cette situation-là. Un petit garçon qui saigne du nez, une petite fille qui perd une dent. Enfin, on s'aperçoit que le sang est toujours relié au maléfice de ces insectes-là. Donc, c'est un récit qui se passe dans quelques jours, au mois de novembre, dans la vie de Joséphine. Donc, on essaie de faire le contexte sombre de l'automne. Et c'est raconté au jeu par elle-même. Il y a parfois des dialogues avec son amie qui, elle, essaie de freiner ses ardeurs ou son frère qui se moque un peu d'elle. Mais à un moment donné, il va lui dire où je travaille. Il y a un garçon plus vieux qui m'a dit que oui, lui, il a déjà été victime de ça dans cette école-là. Alors là, bon, ben évidemment, la chose va se développer. C'est pas facile d'aborder un roman d'horreur pour limiter ça aux enfants sans faire quelque chose de trop ennuyant. Et elle a réussi parce qu'elle a travaillé le côté, je pense, dégueulasse de ces insectes-là qui sont rampants puis qui viennent sucer le sang. C'est une élève qui, elle, va être curieuse et va se rendre compte que d'autres vivent la même chose qu'elle parce qu'à un moment donné, personne ne la croit dans l'école. Et un jour, elle arrive dans la salle de bain, elle entend un petit garçon qui crie parce que lui, je pense qu'il saigne du nez, c'est ça. Et je cite, « Deux créatures sont soudées à ses doigts et des dizaines d'autres s'étendent au fond, recouvrant presque entièrement la porcelaine. Les bestioles continuent à sortir par le robinet et le trou du fond du lavabo. Elles semblent excitées par ma présence. » Donc, on comprend que le sang est ce qui attire ces bestioles-là. Puis bon, ben finalement, de fil en aiguille, les choses vont s'expliquer. Un roman intéressant avec un certain suspense, puis là, on se demande toujours, ben, ça se peut-tu, puis c'est-tu vrai, puis est-ce qu'elle imagine tout ça, jusqu'à temps que deux, trois personnes vivent les mêmes choses et vérifient la chose en question. Donc, un roman haletant qui va plaire aux jeunes sans les traumatiser, et puis bien réussi par Émilie Rivard, qui a du métier quand même.
Donc, les créatures de l'école aux éditions de la Courte Échelle, ça vient d'être publié en 2025. On va aller maintenant le gros méchant quelque chose.
Oui, là, on va changer de public, on va aller vers les très jeunes, là, qui ne lisent, qui ne savent pas lire, je dirais 3 ans et plus. C'est écrit par Nicole Testa, illustré par Catherine Petit aux éditions Dominique et compagnie. C'est paru en 2024, c'est un album de 28 pages. Ce livre-là fait partie d'une série que Nicole Testa a mise sur pied qui vise à, ça s'appelle Les Contes de l'Oreiller, qui vise à donner le goût aux parents, aux adultes, de lire à haute voix à leurs enfants avant d'aller au lit pour qu'ils fassent des beaux rêves. Alors, elle a eu la piqûre de la lecture très jeune, et puis je pense qu'elle raconte que Danielle Pennac, quand elle a lu toutes ces règles pour donner le goût de lire, entre autres celui de lire à haute voix, ça l'a beaucoup stimulée, et elle a créé donc dans ce sens-là, et elle rencontre beaucoup les enfants aussi quand elle est en période création. Et Catherine Petit, c'est une jeune illustratrice qui est née à Montréal en 81, qui a d'abord été une avocate, avant de bifurquer complètement, s'en aller dans les arts visuels. Et maintenant, elle illustre beaucoup d'albums jeunesse, et dont celui-là. Alors, de quoi il est question? Des peurs qu'on se fait dès qu'on est à la noirceur, dans notre lit. On imagine des monstres, dont on peut faire des cauchemars aussi. Alors, comment ça se passe? L'histoire, ça met en scène 2 petits garçons, Théo et Léo. Et chaque soir, les 2 enfants, ils sont au lit avec leur papa qui raconte une histoire. Puis un jour... il dit, vous êtes assez grand, là, on peut passer ça, là, vous êtes capable de vous endormir tout seul, puis faites confiance à le petit, est-ce que il raconte que si tu mets tes pantoufles à côté de ton lit, il va mener le farfadet des pantoufles. Fait qu'ils ont dit, faites confiance au farfadet des pantoufles, puis essayez de vous endormir. Alors, eux autres sont étonnés de ce changement-là, puis effectivement, dès que la lumière est éteinte, ils sont très jeunes, T'sais, ils ont peur, ils entendent des bruits, puis ils s'imaginent qu'il y a un monstre en dessous du lit, puis le monstre prend toute la place. Alors, c'est là qu'arrive le farfadet des pantoufles qui veille sur les petits-enfants pour qu'ils dorment bien. Donc, il y a un autre personnage merveilleux qui va venir finalement aider les enfants à bien dormir, à apprivoiser leur peur. La chambre, ça devient un chantier. On comprend qu'on est dans l'imaginaire avec des êtres merveilleux. Et ils vont finir par endormir le monstre qui est sous le lit. Et puis, vaincre leur peur. C'est un album pour 3-4 ans à peu près, qui peut aller jusqu'à 6 ans. C'est un récit fantastique dans lequel les personnages sont merveilleux, ont des pouvoirs et transmettent leur savoir sur les monstres aux enfants pour qu'ils arrêtent d'avoir peur. Peut-être pour montrer que les enfants sont très jeunes, l'autrice a transcrit des dialogues avec un enfant qui zozote, là. Exemple, au lieu de dire « chose », il dit « sauve ». Méchant au lieu de méchant. Moi, ça m'énervait un peu. J'ai pensé que c'était peut-être pour montrer qu'il était vraiment petit. Et puis, le message est assez explicite, qui aurait pu être plus subtil, mais enfin, l'idée de ce livre-là, c'est vraiment d'apprivoiser les peurs quand on va au lit et qu'il fait noir et qu'on imagine des monstres partout et qu'on fait des cauchemars. Je pense que ça peut aussi donner le goût aux parents de ne pas cesser trop vite de raconter des histoires quand on va mettre les enfants au lit. Enfin.
Pas facile d'être un fantôme, c'est aux éditions scolastiques. Il nous reste 3 minutes, on va parler excuse-moi, on vient d'entendre de gros méchants quelque chose. On va maintenant aller à Pas facile d'être un fantôme aux éditions scolastiques.
C'est par Marilyn Stadler et puis Steph Labéris. Ça raconte l'histoire d'une fantôme au féminin qui, elle, cherche à faire peur, mais elle est trop mignonne. Alors, elle va se déguiser en toutes sortes de choses pour faire peur, mais ses déguisements font plus rire qu'autre chose. Elle va essayer d'être une momie, un loup-garou, une sorcière, mais elle n'est pas effrayante. Alors là, ses amis vont l'inviter à la fête de l'Halloween, puis ils vont lui dire finalement qu'elle est bien comme elle est, elle n'a pas besoin de faire peur, elle est juste mignonne, sa maison, même si c'est une maison hantée, elle ne fait pas peur. Donc, le but de ça, c'est vraiment dans la structure de faire comprendre à l'enfant de s'accepter tel qu'il est et de pas chercher à être autre chose qu'il est. Et puis si c'est une fantôme qui est adorable et qui fait pas peur, tant mieux. Les enfants de 3 ans seront pas trop traumatisés par cette histoire qui aborde quand même le thème de l'Halloween et ils vont remarquer à chaque page une petite chauve-souris qui doivent repérer qui se cache dans l'illustration. Alors, voilà un titre pour les très jeunes sur le thème de la vie.
Mais de quoi avoir du plaisir un peu effrayable, ça fait du bien aussi, d'ici le 31 octobre. Anne-Marie Aubin, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine.
Merci. Au revoir.
Au revoir. L'aventure invisible présentée au Théâtre Prospero s'inscrit dans une approche singulière du théâtre documentaire en croisant trois récits de vie extraordinaires. Alors, ces récits explorent la fluidité et les limites de l'identité. On a d'abord une neuroanatomiste ayant perdu sa mémoire après un AVC, un cinéaste queer en quête d'une photographe surréaliste oubliée et le premier homme à avoir subi une greffe totale du visage. Pour en discuter, donc, nous recevons l'artiste suédois, metteur en scène et auteur Marcus Lindin, et ainsi que sa collaboratrice de longue date, dramaturge et traductrice, Marianne Segal. Marcus, Marianne, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci. Bonjour.
Bonjour. Je vais commencer par vous, Marcus. Comment ces trois trajectoires si différentes, on parle donc de la neuroanatomiste, la cinéaste et le patient à la greffe faciale, se sont-elles imposées et comment avez-vous vu le fil invisible qui relie le concept de l'identité?
Ben oui, c'était très récit assez différent, mais ils parlent de transformations assez spectaculaires autour de cette identité. Et c'est trois différentes histoires que j'ai rencontrées en réalité, en fait, et que je fais des interviews avec trois différentes personnes qui n'ont jamais été rencontrées en vraie vie, mais à travers cette pièce, ils se rencontrent sur le plateau pour la première fois. Et donc, une des personnages, par exemple, c'est le premier patient au monde qui a reçu une greffe totale de visage. Il s'appelle Jérôme Hamon. Il est parisien. Il a raconté son histoire, comment vivre avec un visage de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça qui m'a bouleversé beaucoup au début et c'est ça qui a déclenché un peu le projet.
Marianne, vous utilisez la technique qu'on appelle du verbatim avec une oreillette. Comment cette approche, qui est quand même assez paradoxale, là, très technique, mais visant l'authenticité, comment sert-elle le propos de la pièce?
Ce système-là, en fait, c'est donc un système qui vient du documentaire et qui a été développé aussi en théâtre par une metteuse en scène anglaise dont je ne me souviens jamais le nom, Marcus.
Katie Blythe.
Voilà. Et Marcus, qui lui venait du théâtre documentaire et qui en fait c'était tout un rapport à la. En fait, c'est une pratique qui fait que quand qu'on a la voix de la personne qui a témoigné en fait dans l'oreille et qu'on retranscrit en fait qu'on est passeur de sa parole. Maintenant, quand il s'agit de faire du théâtre et que on fictionnalise tout ça, en fait, c'était de réussir à travailler avec cette technique-là, donc avec l'authenticité de la parole, de la parole réelle, mais de la retravailler et de pouvoir travailler la langue comme une sorte de langue orale, mais qui soit finalement assez artificielle, puisqu'elle est... On travaille les scories dans la langue. Vous voyez comment je cherche mes mots là, par exemple, en ce moment. C'est comment retranscrire ça sans que ça paraisse naturaliste, mais que ce soit comme une langue à la fois très simple, mais qui porte l'oralité des gens.
Ça semble être une technique assez... assez difficile, mais bon, j'imagine quand on est un acteur, on le fait bien, mais ça doit quand même avoir quelques défis, hein?
Oui, alors après, en fait, c'est ce qui est toujours un petit peu plus compliqué, c'est pour les acteurs professionnels plus que pour les non-acteurs. Et nous, on travaille avec des gens qui sont pas forcément dans le jeu n'est pas forcément la profession. Et c'est vrai que c'est en fait, il y a une sorte de lâcher-prise à avoir. En fait, on entend une voix et on doit répéter, mais tout en restant soi-même d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire être soi-même, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de. Il n'y a pas à chercher à interpréter, en fait.
D'accord. Marcus, les récits impliquent souvent ce qu'on appelle une transformation radicale, que ce soit du corps ou de la perception de soi. Alors, quel rôle le corps, le visage, la mémoire, ce qu'on appelle là, ces ancrages traditionnels du moi, quand ils sont altérés ou empruntés ou perdus, surtout comme dans le cas là, de la neuroanatomiste là, où l'homme au visage greffé.
Mais je crois que l'identité est toujours très très liée à notre corps et c'est ça qui parle aussi notamment les deux récits là parce que bien sûr notre sentiment d'être quelqu'un en spécifique en soi en base de nous-mêmes c'est vraiment lié de notre apparence notre corps et si ça pas en fait tous les trois différents récits ils questionnent un peu cette idée de noix en base identitaire, noyau en base identitaire, et propose plutôt que l'identité peut être quelque chose de plutôt flexible, un peu plus flottante, en vrai dit. Parce que si on a, par exemple, dans ce cas des patients de greffe, là, si on a traversé une vie avec trois différents visages, qui est le cas pour lui, parce qu'il a reçu deux greffes de visage, donc il est dans son troisième visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en termes d'identité? Est-ce qu'il est toujours la même personne ou pas? Qu'est-ce que de devenir après une opération comme ça? Donc, les pièces questionnent vraiment ça.
Dans le cas de la neuroanatomiste, elle a perdu la mémoire. Hein, donc, elle doit se reconstruire. Ça aussi, c'est un grand changement d'identité, j'imagine.
Ouais, alors là, c'est en fait ce qui se passe chez elle, c'est un peu l'inverse de chez le premier greffé, puisque elles sont, on va dire, son apparence est restée la même, mais elle a complètement toute son identité est partie, toute sa mémoire s'est effacée. Donc elle a à reconstruire, en fait, alors elle tente de reconstruire qui elle était, puis se rend compte de l'absurdité de ça aussi, parce que pourquoi reconstruire une personne qu'on était si on n'est plus comme ça, en fait, si on ne se reconnaît plus en fait dans et puis qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Donc voilà, c'est ces questionnements en fait et puis ces personnages discutent chacun de leur point de vue donc à travers un prisme particulier de ce rapport à l'identité et aux identités en fait.
Et puis j'aimerais qu'on parle aussi de Claude Cahun, dont la cinéaste queer cherche à raviver la mémoire. Ça aussi, c'est une autre démarche identitaire. Comment ça s'inscrit dans tout ça?
Oui, mais ça, c'est en fait le vrai début de tout ce projet de l'aventure invisible, parce que le titre, l'aventure invisible, en fait, ça vient d'une de ses poèmes. Parce que Claude Cahun, elle était un photographe, mais elle était aussi un écrivaine et surréaliste de la année 20-30 en France, un peu oubliée malheureusement, mais elle était redécouverte récemment avec des photos qu'elle a fait vraiment avant son temps. Elles sont très très queer, androgyne, elle fait de autoportraits d'elle-même, mais habillée comme un homme, etc. Donc, on traverse cette histoire à travers une artiste londonienne que j'ai interviewée, qui a dédié presque toute sa carrière à reconstruire les photos de Claude Cahun. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu une manière d'explorer l'identité à travers ce personnage de Claude Cahun, mais aussi le vrai personnage de cet artiste qui parle aussi de non-binarité, de son propre identité entre les deux genres.
Tous les deux, lorsque j'ai lu sur vous, vous parlez que vous dites que votre démarche, votre travail n'est jamais une démarche de voyeur ou de voyeurisme. C'est une démarche de théâtre documentaire. Ça soulève quand même des questions éthiques. Comment on s'assure, quand on fait ce travail-là, de garder une certaine bienveillance puis une distance respectueuse dans le traitement des histoires?
Moi, je crois que la manière qu'on fait ça, parce que c'est vrai qu'on traite vraiment de cette histoire qui vient de réalité assez spectaculaire, mais je crois qu'on essaie d'éviter le voyeurisme par rapport au rapport au dispositif elle-même, parce qu'on accueille l'audience, le public, et dans un dispositif pas frontal, mais circulaire. Donc, tu es assis très, très proche, à côté même de performeurs et performeuses. Et donc, dans une situation théâtrale sans plateau, en fait. Donc, tu écoutes juste le dialogue et dans une proximité très intimiste. Ça veut dire que c'est vraiment pas de dramatique. On ne met pas de sujet en face d'un public. C'est vraiment... On intègre les histoires avec le public dans un rapport intimiste.
Alors justement, comme...
le public...
oui, allez-y, Marianne.
Je veux dire, et c'est vrai que le public est toujours, en fait, quand on entend, on écoute ces histoires, le public est vraiment fait partie de la scénographie, en fait, puisque la lumière est aussi sur le public et que le public est aussi acteur de ça, puisque tout le monde se voit et tout le monde se regarde, en fait.
Ouais, j'ai l'impression
même si on ne demande pas d'interaction.
Oui, il n'y a pas
d'interaction. Il n'y a pas d'interaction, mais j'ai l'impression que les spectateurs, ce que j'ai vu par les photos, parce que je n'ai pas vu la pièce encore, elle commence ce soir, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a comme un agora. Les gens, les non-comédiens qui sont là sont assis à même le public, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, en fait. Ils sont entourés des spectateurs. Tout le monde, en fait, c'est donc une scénographie circulaire à trois niveaux, en fait. Et donc tout le monde est ensemble. Donc c'est vrai que je crois qu'il y a ça, que le fait que le public soit extrêmement présent, extrêmement actif dans tout le tout durant toute cette ce spectacle, on va dire, mais aussi que finalement les questions, elles sont non pas posées par quelqu'un qui n'aurait pas vécu les choses, mais aussi par elles se posent entre eux, en fait, chacun, comme ce que je disais tout à l'heure, chacun de son point de vue, ayant lui-même été traversé par cette question intimement. Donc en fait, les questions sont posées par quelqu'un qui lui-même vit d'une certaine manière ses interrogations existentielles, on va dire, sur les questions d'identité.
J'ai un petit temps pour une dernière petite question. Cette pièce a été jouée ailleurs. Cette fois-ci, vous la jouez à Montréal. En quoi c'est différent ici à Montréal que ça l'était ailleurs? Ou si ça ne l'est pas du tout, là?
Mais c'est vrai que c'est une récréation d'un spectacle qu'on a déjà fait en Europe, surtout en France, mais des autres pays aussi européens. Mais ici, on a reconstruit la scénographie et on a fait tout un travail de casting pour trouver une distribution québécoise, en fait. Mm-hmm. Et ça a été vraiment une vraie découverte pour nous, parce qu'on a découvert une distribution incroyable. Et donc, on est même plus fiers, je crois, maintenant, de cette production-là qu'en France. Et on a très hâte de présenter ça au public qui m'aurait allé.
Et puis, on a aussi travaillé avec un théâtre, le Théâtre Prospero, avec des gens incroyables aussi. La scène est vraiment très, très belle. Donc, une recréée ici. Et ils ont été très, très proches, ils le sont toujours, et c'est vrai qu'on a pu très à l'écoute, en fait, de ce qu'on voulait, en fait, de ce que c'est une nouvelle aventure, en fait.
Bien, parce qu'on a hâte de voir ça. L'aventure invisible est présentée au Théâtre Prospero à compter de ce soir jusqu'au 1er novembre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de présentations qui étaient déjà salle comble. Alors, courriez-vous, faites vite pour être capable d'avoir vos billets. Merci beaucoup, Marcus Linden et Marianne Segal. Et bien, on se voit cette semaine au théâtre.
Merci. Merci.
Alors, c'était au quotidien pour ce 14 octobre. Déjà 14 octobre, mon Dieu, que le temps passe vite, hein? On s'approche de l'hiver, des fêtes et tout ça, hein? J'ai toujours le malheur de rappeler ça à tout le monde. Remercier donc l'équipe, Hélène Denis, qui a beaucoup travaillé à la recherche, et moi-même, évidemment. Mathieu Tessier, qui était à la régie. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est une journée qui va être... ça risque d'être ensoleillé, avec un petit peu de nuages, pas de précipitations, mais c'est un peu plus frisquet. Et puis, dans l'ouest du pays, il y a des précipitations. C'est comme ça, hein? On arrive à l'automne, les feuilles tombent, la pluie, puis éventuellement, ça va être la neige. Hélène Denis sera de retour demain. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.